EMC IPV vous présente Bonjour chez vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Ne résiste pas à Dieu ». Et aujourd'hui, c'est Mickaël qui va nous apporter la pensée du jour. Et nous terminerons comme chaque vendredi avec la rubrique « C'est mon histoire » dans laquelle j'ai reçu le pasteur Dorothée Radja qui nous a raconté le chemin qu'elle a parcouru pour devenir prédicatrice. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour tout le monde.
Bonjour Evelyne.
Vous allez bien aujourd'hui?
Oui.
Vous êtes en forme?
Ça va.
Super, vous avez une tendance à résister aujourd'hui ou à vous laisser aller?
Je pense pas.
Donc aujourd'hui, on va parler de ne pas résister à Dieu. Et parfois, quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous parle, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, le premier réflexe qu'on va avoir, c'est de résister parce que on a peur ou pour différentes raisons, on ne se sent pas qualifié, etc. Donc, on va en parler tout de suite dans la pensée du jour. Le titre de ta pensée, chérie, est « Ne résiste pas à l'appel, mais prépare-toi ».
Oui, aujourd'hui, on va parler de ne pas résister à l'appel de Dieu. Et souvent, lorsque Dieu nous appelle, on a tendance à dire « Mais Seigneur, tu m'as appelé, mais ça fait des années que je ne suis pas rentré dans l'appel de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire ?» Et je crois que l'une des réponses que Dieu donne aujourd'hui, c'est « Prépare-toi, commence à te préparer ». L'une des bonnes choses que l'on peut faire, que vous pouvez faire lorsque Dieu vous a appelé, c'est de commencer simplement à vous préparer. Parce que pour Dieu, la préparation est vraiment importante. Commencez à se préparer avec sérieux est la première et la meilleure des réponses que vous pouvez donner à Dieu par rapport à l'appel qu'il vous a donné. Choisir de ne rien faire, de ne pas se préparer, finalement, c'est résister à l'appel de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'aux yeux de Dieu, nous sommes comme des vases. Et si le vase n'est pas prêt, si le vase n'est pas apte, Dieu ne déversera pas la pleine onction qu'il doit déverser dans nos vies, dans les vases qu'on est, pour pouvoir nous rendre capables d'accomplir le ministère auquel il nous a appelés. Parce que Dieu sait que si on n'est pas prêt, on va se casser la figure. Et Dieu est sage. Dites-moi, quel étudiant va se présenter à un examen sans avoir révisé avant s'être préparé? Ou quel sportif va se présenter à son match sans s'être préparé? C'est voué à l'échec. Quel serviteur de Dieu Dieu introduira pleinement dans le ministère qu'il a confié, l'enverra au front face aux puissances démoniaques, face à la dureté des hommes, face à l'adversité, s'il n'est pas prêt à tous égards. Donc l'homme de Dieu doit prendre au sérieux la préparation. La préparation est déterminante. Et plus ce à quoi Dieu vous appelle est grand, plus votre temps de formation doit être intensif. Et entre le moment où Dieu vous appelle et le moment où Dieu va vous introduire dans le ministère auquel il vous a appelé, il y aura une période plus ou moins longue qui, aux yeux de Dieu, est un temps de formation. Et si nous ne réalisons pas que ce temps est un temps de formation dans lequel on doit bien gérer notre temps pour l'utiliser, pour se préparer, pour grandir en stature, en grâce, en sagesse, comme le Seigneur Jésus, finalement, on va tourner en rond et jamais on ne rentrera dans notre appel. Deux choses vont se produire. Un, on sera frustré et on va dire à tout le monde « je suis dans un désert, je suis frustré ». Au lieu de considérer que ce n'est pas un désert, c'est un temps de formation par lequel Dieu me fait passer. Et comme je vous l'ai dit, on tournera en rond et certainement on mourra sans rentrer dans le ministère auquel Dieu nous a appelés parce qu'on n'aura jamais été prêt. Pour David, le roi David, il a eu 7 ans de formation. 7 ans entre le moment où Dieu l'a oint avec le prophète Samuel et le moment où il est devenu roi d'Israël, il y a eu 7 ans. 7 ans où il a appris à persévérer face à l'adversité, à se confier en Dieu, mais 7 ans aussi où il a appris à gérer une armée et à diriger des hommes, des vaillants hommes qui sont venus par centaines dans la caverne sous son leadership, avant de diriger toute une nation. Joseph, 13 années, entre la vision qu'il a eue de Dieu et le moment où il est devenu à la tête chef de l'Égypte, 13 années où il a appris à persévérer et à gérer la grande propriété de Potiphar et à gérer, il a développé son don de gérance dans la grande prison qu'il a gérée avant de gérer tout le pays d'Égypte. etc. Je pourrais vous parler de Paul, 14 ans entre le moment où Dieu l'appelle sur le chemin de Damas et le moment où il est envoyé en tant que grand missionnaire pour ses premiers voyages missionnaires. Il a appris, il a fait des choses entre-temps. Jésus, 30 ans et les disciples, 3 ans, etc. Bon, je vous passe les détails. Ce temps de formation est vraiment essentiel. Et le ministère est une chose très sérieuse aux yeux de Dieu. Et Dieu veut que l'on considère avec sérieux en s'y préparant. Le Saint-Esprit voudrait vous encourager aujourd'hui à être comme Jésus. Très tôt, Jésus avait compris ce à quoi Dieu l'appelait et il a pris cela avec sérieux. Et comment il l'a pris avec sérieux ? Il s'est préparé. Dès l'âge de 12 ans, ses parents le cherchaient. Il était dans le temple et il a dit à ses parents « Mais pourquoi me cherchez-vous ? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ?» Et qu'est-ce que faisait Jésus ? Jésus était en train d'interroger pendant 3 jours les scribes, les pharisiens, leur posant des questions sur la loi pour avoir des révélations, une pleine compréhension des saintes écritures pour comprendre les choses par rapport au ministère. Et en faisant ça, il se préparait. Quelques versets plus loin, 3 versets plus loin, il est écrit dans Luc au chapitre 2, verset 52, « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » J'aimerais vous poser cette question aujourd'hui. Ces 2 dernières années, avez-vous grandi ? Avez-vous pris de la stature, de la grâce, de la sagesse devant Dieu et devant les hommes ? Ou avez-vous stagné ? N'avez-vous pas évolué ? Si c'est le cas, je vous encourage aujourd'hui, préparez-vous intensivement afin d'être prêt, afin que cette formation soit la plus courte possible, afin que vous soyez revêtu le plus tôt possible pour accomplir ce ministère. Et pour finir, j'aimerais vous parler de la méthode stage. On serait tenté à croire que la préparation, la meilleure des préparations, ce serait de se tenir à l'écart dans le désert, loin des hommes, seul avec la Bible, seul dans la prière. C'est faux, archi faux. C'est la moins bonne des méthodes. La meilleure des méthodes, c'est la méthode stage, où on apprend la théorie et on apprend la pratique au contact des hommes. Et c'est cette méthode que le Seigneur Jésus a utilisée. Il a pris ses disciples en stage. Le stage, c'est quoi ? Le maître monte, premièrement, on écoute l'enseignement du maître. Deuxièmement, on observe comment le maître fait de manière pratique. Troisièmement, on met en pratique en faisant exactement comme le maître. Et c'est ce que Jésus faisait. Il apprenait à ses disciples comment guérir les malades. Il les enseignait, chassait les démons. Puis, il leur montrait comment on guérit, comment on chasse les démons. Puis, après, il les envoyait dans les maisons, chasser les démons, et après, ils faisaient le bilan. Voilà, ça, c'est pas bien, ça, c'est bien, etc. Donc, c'est comme ça qu'ils ont appris intensément, et voilà. Et il faut pas s'isoler, il faut vraiment la théorie, l'enseignement et la pratique. Il faut pratiquer. L'apôtre Paul, pour finir, lui aussi a pris son fils spirituel Timothée en stage et pour le préparer à être le futur grand pasteur et grand enseignant qu'il voulait qu'il soit. Et il dit dans 1 Timothée au chapitre 4, 13, il lui donne ce conseil, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec imposition des mains dans l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Pour finir, j'aimerais vous challenger avec cette belle citation du pasteur Rom Thompson. Aujourd'hui, quelque part, il y a une personne qui se prépare pour aller en soirée, pendant qu'une autre prépare une œuvre grandiose. Aujourd'hui, c'est à toi de choisir.
Amen. Merci pour cette pensée. Et oui, c'est à nous de choisir. Quand Dieu nous parle, quand l'appel de Dieu vient sur nous, alors on a déjà vu dans différentes émissions que Dieu peut nous appeler de différentes façons. On avait fait une émission sur comment savoir si on a été appelé et vous pouvez l'écouter à la maison. Mais donc, Dieu nous parle, on est certain, on a reçu un appel. Ouais. Là, on est face à 2 choix. On peut dire oui ou on peut dire non. Et puis, entre les deux, il y a cette étape où on résiste, en fait. On ne dit pas oui, on ne dit pas non, on essaye de négocier un petit peu avec Dieu, on essaye de gagner du temps parce qu'en fait, on ne se sent pas prêt, ça nous stresse, ça nous panique. Et puis, on est dans cette phase de tiraillement. Et certaines personnes, ça va prendre quelques jours, d'autres, ça va prendre quelques mois, mais d'autres, ça va prendre même des années au point où ça va prendre même une vie entière de résister avec l'appel de Dieu. Et c'est ce qu'on veut éviter aujourd'hui avec une telle émission, c'est permettre aux gens qui nous écoutent de ne pas perdre ce temps. Ce temps où on résiste avec Dieu, c'est juste épuisant. Et puis, on va être frustré, on va être insatisfait. Et puis, on va passer complètement à côté de ce à quoi Dieu nous a appelés. Ou on peut dire oui, comme tu l'as dit dans ta pensée, et puis décider à partir de ce moment-là de se préparer. Le verset du jour aujourd'hui est dans Actes 9:5, un verset qu'on connaît beaucoup, mais peut-être qu'on ne le comprend pas toujours bien. « Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » C'est Jésus qui a dit ça à Paul, parce que justement, Paul avait cette tendance à résister, en fait. Il ne comprenait pas exactement. Il croyait qu'il servait Dieu dans ce qu'il faisait, alors qu'il était en train de faire tout l'inverse. Il était en train de persécuter le Seigneur Jésus. Et le mot « regimber », si vous voulez aller chercher dans le dictionnaire, vous allez voir que ça veut dire « résister en refusant ». C'est ça, regimber. En gros, c'est « te sera difficile de me résister ». Et puis les aiguillons, c'était une pièce métallique dirigée qu'on servait pour diriger les bœufs ou d'autres bétails. En gros, c'était comme si le Seigneur nous pique pour nous faire avancer, nous dit « allez, vas-y, rentre dans ton appel, go, go, go ». Et puis nous, on essaye de résister, mais en fait, le Seigneur disait « il te serait difficile ». Ça te parle, cette illustration, Frank? Je vois ton petit sourire.
Je peux t'imaginer, Evelyne, qui te parlait pour Bonjour chez vous. Hein.
Ah ouais, il m'a bien piqué. Ah ouais.
Moi, je pensais que l'aiguillon, c'était une femme.
Parfois, je suis ton aiguillon.
Ouais, je viens de comprendre le verset, en fait.
Remercie-moi.
L'émission a servi à quelque chose.
Alléluia, on peut la terminer.
Mais, oui, c'est une très belle image, très puissant. Et puis, ben, premièrement, Mika, comme tu as dit par rapport au ministère, juste le fait d'être appelé au ministère, parce que ce n'est pas tout le monde qui l'est. Mm-hmm. Et puis, juste ça, c'est tellement une grâce, c'est un privilège, il faut prendre ça au sérieux. Et puis, aussitôt que hier soir, je parlais avec un jeune dans la vingtaine qui m'a approché, qui m'a dit « je sens vraiment que Dieu m'appelle à faire des choses. Comment je fais, justement? » Et ça, c'est la question que tout le monde se pose. Comment je fais? Et puis, pour ma part, Dieu m'a parlé à plusieurs reprises dans ma vie. Il y a des fois où est-ce que j'ai résisté, un mois, deux mois, trois mois, parce qu'il veut que tu fasses quelque chose et ta chair n'a pas envie ou ça ne t'intéresse pas ou quoi que ce soit. Mais oui, c'est vrai, ça va être dur de régimber contre Dieu parce qu'il ne va pas nous lâcher. Il nous appelle à quelque chose, il veut qu'on fasse ces choses-là parce que c'est glorieux. Et puis moi, tout simplement, qu'est-ce que je peux dire aux gens à la maison? Prier et lire ta Bible, ça, c'est même pas à cause que t'es appelé au ministère que tu dois le faire. Tu dois le faire parce que tu aimes Dieu et tu veux grandir. Mais d'autant plus important, si tu veux vraiment servir Dieu dans le ministère, tu peux t'inscrire à une bonne école biblique. Tu peux commencer par des choses naturelles, qui sont simples, qui sont pas forcément spirituelles. Tu peux peut-être te voir déjà en train de prêcher, mais c'est pas le temps encore peut-être de prêcher devant des foules. Tu peux te voir en train de chanter ou faire d'autres choses. C'est peut-être juste pas le temps. Mais commence à faire des choses. Et qu'est-ce que tu as dit, Mika? C'est super important. C'est d'avoir quelqu'un qui peut nous diriger, des personnes qui sont plus loin, plus avancées que nous dans le ministère, qui vont pouvoir nous conseiller, qui vont pouvoir, comme j'ai dit, diriger nos pas, dire ça, fais ça comme ça, qui vont pouvoir nous enseigner. C'est tellement important. Et pour les gens qui sont à la maison, qui disent, mais comment je fais? Comment est-ce que je peux commencer? Juste le fait d'aller voir peut-être ton pasteur et de lui dire, mais pasteur, je sens l'appel sur ma vie. Déjà là, t'as commencé à faire quelque chose. T'as arrêté de résister et t'as commencé. Ça commence par ça, tout simplement. Et puis, il faut y aller. Et puis, une étape après l'autre, les choses vont se mettre en place. Et puis, Dieu, comme on l'a tellement souvent dit, il nous révèle les choses pas à pas. Il va nous montrer, tu as fait un premier pas, OK, là, fais ça. Et là, il va te parler et tu vas voir les choses se dérouler. Et puis, ça se fait naturellement comme ça. Au début, ça a l'air pire que c'est, mais c'est très agréable. Puis, on voit Dieu agir vraiment.
Amen. Moi, une chose qui fait aussi que les gens résistent, c'est parce qu'ils manquent d'opportunités. C'est parce qu'ils croient que quand Dieu les appelle, automatiquement, le lendemain, il y aura on va te donner la prédication ou la concrétisation va se faire rapidement. Et des fois, la préparation, justement, c'est ce temps où est-ce que vaut mieux être préparé lorsque l'opportunité arrive que d'avoir beaucoup d'opportunités qui viennent devant nous et on n'est pas préparé. Et des fois, des gens vont résister justement à l'appel de Dieu parce qu'ils se disent, mais Dieu m'a appelé à servir dans la prédication, mais dans mon église, je suis au ménage, par exemple. Je suis pas dans un département où est-ce que je suis en train d'exercer ou de pratiquer ce pour lequel Dieu m'a appelé. Ou des fois même, ils sont dans l'église, Dieu leur a appelé, ils sentent qu'ils ont un ministère de chant, par exemple, mais bizarrement, le conducteur de ton groupe de louanges ne te met jamais à l'avant. Et là, tu focuses là-dessus pour dire, tu rentres en guerre un peu pour dire, quand je serai mis de l'avant, c'est là que je vais pratiquer mon don. Or, pratique ton don. Des fois, c'est même l'aveuglement des gens autour de toi qui ne reconnaissent pas ça. C'est aussi le Seigneur qui permet pour que tu n'ailles pas plus vite que le temps que justement les choses que tu dois maîtriser. Parce que une fois qu'on arrive devant, on peut plus reculer en arrière. C'est déjà là, c'est comme c'est go, il faut y aller, il faut le faire. Alors vaut mieux prendre le temps de le faire parce que nous-mêmes, nous aurons toujours tendance à aller plus vite. Mais c'est le Seigneur qui sait. Et les temps de préparation, justement, c'est là qu'il forge des choses en toi que tu ne savais même pas, que dans lesquelles tu devais travailler, parce que la vision globale, elle est là, mais le Seigneur, il voit aussi dans les détails et il nous permet de travailler là-dessus, justement.
C'est vrai.
Donc, quand j'entends cette pensée et que je lis le verset du jour, à la fois, je suis encouragé et à la fois, j'ai envie de dire pardon, Seigneur, pour toutes les fois où je ne me suis pas bien préparé. C'est tellement important de se préparer avant d'entrer dans le ministère, mais aussi pendant qu'on est dans le ministère. On a toujours besoin de se préparer et souvent on fonce et on peut aussi avancer avec des acquis. Et ça, c'est très dangereux de marcher sur des acquis, de ne pas se renouveler dans la parole de Dieu, dans la communion, dans la prière. Et la Bible dit qu'il est maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Donc il y a vraiment une forme de malédiction quand on fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Je me souviens au début, quand on avait à peu près 19-20 ans dans notre groupe de jeunes, je faisais la louange au début tout seul, après avec Gwen, et souvent je faisais des rêves où j'étais pas préparé. Donc on était là avec Gwen dans mes rêves, en train d'essayer de trouver un chant, et c'était horrible la sensation. Et c'est Dieu qui me disait, il faut que tu te prépares en fait, il faut que tu te prépares, ne rien prendre à la légère. On a une petite exhortation de 5 minutes à faire à l'église, dans une maison où tout est important. Tout est important, c'est tout vrai. A une capacité de transformation, de vie, une capacité que Dieu fasse quelque chose. Donc c'est pourquoi il est vraiment important de se préparer.
Exactement.
C'est pourquoi moi j'ai envie de dire pardon, pardon Seigneur, pour toutes les fois où on se prépare pas. Et pourtant c'est tellement important.
Ouais. Moi je me souviens, Jérémy, c'est ça, pendant un temps, à un moment donné, dans les bureaux.
Je me demande ce qu'il va dire.
Ouais, moi j'ai peur.
Je me demande ce qui va sortir de ma bouche. Mais dans les bureaux, je me souviens quand l'appel de Dieu t'appelait à être à temps plein et comment c'était dur le travail et tout ça. Et finalement, tu as accepté de céder à cet appel. Mais c'était pas chose facile. Et là, tu vivais des choses profondes en fait qui t'ont préparé à être dans le ministère à temps plein aujourd'hui. Des fois, les gens ils regardent et ils disent, Mais comment on peut arriver à là? Mais en fait, c'est tout un processus.
C'est ça.
Pour ça, l'apôtre Paul, il dit là, dans ce verset que j'ai lu, occupe-toi, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Et là, pour Jésus, c'était la même chose. Il grandissait en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et on doit voir cette croissance, en fait, et cette préparation.
C'est ça. Tu vois, Frank, tu disais que Dieu révèle comme étape par étape, mais en fait, on peut résister à chaque étape, en fait. C'est ça, c'est pas juste une fois, c'est à chaque fois, Dieu nous pousse à aller plus loin. Dieu veut élargir la vision, Dieu veut nous amener dans une autre dimension, dans un autre domaine, et il nous sort de notre zone de confort régulièrement. Et en fait, à chaque étape, on peut être en train de résister. Et à chaque fois qu'on se dit, là, c'est bon, là, je crois que c'est bon, j'y suis, ça va bien, on va continuer comme ça. Il vient et il nous challenge à autre chose parce qu'il veut qu'on aille plus loin, parce que son plan est grand, est beaucoup plus grand que ce qu'on peut voir, ce qu'on peut imaginer. Et c'est là où c'est important de toujours aller se soumettre, en fait, à la volonté de Dieu, toujours avoir ce réflexe de se soumettre et de chercher la face de Dieu, de savoir qu'est-ce que tu veux que je fasse, là où est-ce que tu veux m'emmener, est-ce que là où j'en suis, c'est bon, ou est-ce que tu veux m'emmener plus loin, puis avoir ce réflexe d'avoir ce cœur qui est disposé en permanence, parce qu'on ne sait jamais quand Dieu va nous parler, quand Dieu va nous appeler, quand il va venir nous challenger, on ne le sait pas, ça vient comme ça d'un coup. Vaut mieux être prêt pour pouvoir avoir directement la bonne attitude, plutôt que quand Dieu va parler, rentrer dans toute cette phase où on va résister, où on va attendre, on va se dire, est-ce que vraiment c'est bien ça? Est-ce que si? Est-ce que ça? Il y a tout un combat de chair qui se passe à l'intérieur et c'est douloureux et on perd du temps finalement. Donc je vous encourage à la maison à être prêt par rapport à quand Dieu va vous appeler ou si Dieu vous a déjà parlé, que vous avez résisté, vous pouvez encore faire demi-tour et lui dire oui, aujourd'hui même, c'est possible. Et on va regarder tout de suite le témoignage du pasteur Dorothée Raja. Vous allez voir qu'elle a eu une petite phase aussi où elle a résisté, où elle n'a pas compris ce que Dieu voulait faire. On voit aujourd'hui son ministère, on voit où elle en est, on se dit waouh, c'est glorieux, c'est fantastique. Mais vous allez voir que ça n'a pas toujours été facile et puis Dieu l'a vraiment sorti plusieurs fois de sa zone de confort. Donc je vous laisse regarder dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve maintenant pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le privilège et l'honneur d'être avec le pasteur Dorothée Radja. Bonjour, pasteur Dorothée.
Bonjour, Evelyne.
Vous allez bien aujourd'hui ?
Ça va, merci.
Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation pour la rubrique « C'est mon histoire ». On va s'introduire un petit peu dans votre vie aujourd'hui.
D'accord, avec plaisir.
Vous aviez déjà fait un « C'est mon histoire » la dernière fois que vous étiez venue. C'était une excellente émission que d'ailleurs je vous recommande vivement. Et aujourd'hui, nous allons plutôt parler de votre appel à la prédication, votre appel pour être une prédicatrice, ce chemin que vous avez dû parcourir.
Oui, c'est vrai. C'est un chemin auquel je ne m'attendais pas.
Oui.
Je pense que quand Dieu nous appelle, souvent, on est surpris de ce que Dieu nous demande. Et Dieu a des plans dans nos vies et lui seul les connaît.
Exactement. Et quand il nous les révèle, c'est pas toujours ce qu'on sait, à quoi on s'attendait.
On n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt à ce que Dieu nous demande. Et puis je pense que c'est ce que Dieu veut en fait, parce que c'est le meilleur moyen par lequel, finalement, il va nous construire, il va nous façonner. Et donc ce n'est pas un plan humain. Et c'est ça qui est important. Mais c'est finalement un plan, le plan de Dieu. Et puis ça nous garde humbles finalement, parce que on sait d'où on vient, on sait ce qu'on est capable et ce dont on n'est pas capable. Et on sait que si Dieu a pu faire quelque chose au travers de nous, finalement, c'est vraiment lui et c'est pas nous. Alors, c'est très bon pour notre ego, pour rester bien à notre place et laisser Dieu bien à sa place.
Exactement. Je me souviens, la dernière fois que vous étiez venue, vous m'aviez dit « Dieu ne partage pas sa gloire ». Et ça m'est resté, ça m'est vraiment resté. Oui, vous avez...
Absolument.
Et c'est exactement ça. C'est vrai que Dieu nous appelle parfois, justement, dans ces... où on ne se sent pas forcément qualifié, pas à la hauteur, et c'est pour nous garder humbles, comme vous dites. Oui. Et vous, vous êtes née dans une famille chrétienne, vos parents étaient au Seigneur, nés de nouveau, donc vous avez grandi... avec le Seigneur dans une belle famille.
Voilà, mes parents venaient d'être chrétiens, en fait. Moi, j'avais 4 ans quand mes parents ont été sauvés.
D'accord.
Et donc, j'ai commencé à aller à l'église à 4 ans. Et à 7 ans, j'avais suffisamment entendu de choses à propos de Jésus pour finalement faire un choix. Alors, c'est étonnant, mais ça peut parler aussi à tous les parents qui ont des enfants. Et parfois, on peut sous-estimer un petit peu tout ce qu'ils entendent, mais les enfants sont vraiment des récepteurs. Et ils écoutent, ils reçoivent. À 7 ans, j'avais compris un certain nombre de choses, en tout cas, qui m'ont donné la latitude de faire mes propres choix. Et je suis allée simplement dans ma chambre. J'ai fermé à clé la porte de ma chambre. C'est un souvenir très fort. Et j'ai mis mes genoux par terre et j'ai dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je te donne mon cœur, je te donne ma vie.
Wow.
Et c'est vrai que j'ai jamais eu besoin de refaire cette prière parce que c'était la prière officielle. Ça a été la prière par laquelle le Seigneur est entré dans mon cœur, dans ma vie.
C'est beau.
Il n'y a plus eu de doute.
C'était vraiment le jour de
nouvelle
naissance, à 7 ans.
Absolument.
Et de façon autonome, ça montre un vrai attachement à Dieu. C'est beau quand même, vraiment. Et vous avez vécu des expériences avec le Seigneur assez tôt quand même, autour de l'âge de 11, 12 ans déjà, vous viviez des choses avec Dieu.
Alors, c'est surtout que finalement, on ne connaît pas l'avenir, on ne sait pas, on ne peut pas imaginer en fait qu'il peut y avoir un appel de Dieu sur notre vie. Alors, quand il nous arrive effectivement des choses... que Dieu se révèle de façon particulière, on se demande pourquoi. Et moi, effectivement, à 12 ans, j'ai eu une expérience avec le ciel qui m'a beaucoup marquée. Et puis, quelques années plus tard, avec l'enfer.
Oui.
Et je me suis demandé pourquoi. Est-ce que c'était une grâce? Est-ce que ça arrivait à tout le monde ou pas? Je ne savais pas. En tout cas, ça a été pour moi une pierre blanche que Dieu a déposée dans ma vie. Et puis... aussi, je pense que lorsque l'on est appelé à servir Dieu, finalement, à plein temps, comme je l'ai été, c'est très, très important d'avoir, finalement, ces deux pôles, ces deux réalités spirituelles qui sont bien ancrées à l'intérieur de soi et qui vont nous donner vraiment toute la force, toute la détermination pour faire ce à quoi on est appelé. Donc, cette révélation du ciel, cette révélation de l'enfer qui vous donne un peu le cap.
C'est ça, ça vous a marqué un petit peu au fer rouge, si on veut bien, parce que justement, ça vous a peut-être, comme vous dites, donné cette détermination pour ensuite répondre à cet appel que Dieu avait mis sur votre vie, qui n'allait pas forcément être tout simple et tout rose.
Oui.
Donc, c'était une nécessité, certainement, ça faisait partie du plan de Dieu pour vous préparer.
C'est vrai. Ouais.
Et vous, arrivez à l'adolescence, en grandissant, même arrivé jusqu'à l'âge de 17-18 ans, votre désir, vraiment, vous vouliez être psychologue, thérapeute, vous vouliez vraiment aider les autres de cette façon-là.
Voilà, moi j'avais envisagé ma vie, je me voyais, j'avais une personne dans ma famille qui avait fait carrière dans ce domaine-là, dans le domaine de la psychologie, psychanalyse, etc. Et donc, voilà, j'avais des grands rêves à ce niveau-là. Je voulais faire des longues études. J'avais mon plan qui était bien ficelé à partir de 14 ans, donc jusqu'à 18 ans, et qui n'était pas du tout le plan de Dieu. Et c'est là qu'à 18 ans, en fait, Dieu m'a parlé. Puis vous savez, cette façon dont, quand Dieu vous parle, vous savez que c'est Dieu.
Oui.
Vous savez que vous savez, et surtout vous savez que c'est Dieu quand vous savez que c'est pas du tout ce que vous aviez prévu et que vous n'avez aucune envie de faire ce que Dieu vous demande.
C'est un bon signe en général.
Voilà, sauf que quand à ce moment-là, on s'en rend pas bien compte, on se dit c'est quoi ce plan. Et puis Dieu m'a dit trois choses en fait. Il m'a dit je veux que tu étudies ma parole, je veux que tu apprennes l'anglais. Et je veux que tu saches comment voilà, gérer une entreprise. Alors, c'était vraiment loin de mes préoccupations. Bien sûr, étudier la parole, ça faisait partie de mon univers. Et pourquoi pas, mais après mes études, clairement après mes études, finalement, alors que c'était une priorité pour Dieu, apprendre l'anglais, je n'aimais pas du tout l'anglais, je ne parlais pas un mot d'anglais.
D'accord.
Au bac, j'ai pris l'espagnol, voilà.
Ok, oui.
Donc, ça n'avait pas de sens du tout. Et puis, gérer une entreprise, ça ne m'intéressait pas du tout, parce que quand on en est plutôt orienté vers voilà, des pensées, la psychologie, l'âme, les choses comme ça, les réalités de l'économie d'entreprise, de la gestion et autres, vous êtes très loin de tout ça.
Là, vous vous êtes dit que Dieu vous appelait à être justement une femme d'entreprise, peut-être quelque chose comme ça.
Je ne me suis rien dit du tout. Okay. Je me suis dit, j'ai pleuré, j'ai eu du mal à abandonner mon plan. J'ai versé beaucoup de larmes parce que ce chemin d'obéissance, parce qu'il faut dire ça, a été pour moi un chemin de sacrifice. Et donc, j'ai dû vraiment déposer mon Isaac. Probablement, ça a été dans ma vie la première mort, parce qu'il y a des morts. Hein,
oui, des morts à soi.
Morts à soi-même, bien sûr, par lequel on doit passer.
Oui.
Et ça a été voilà, un chemin d'obéissance, une mort à moi-même. J'ai pleuré des larmes, beaucoup de larmes, parce que aussi, quand Dieu nous parle, nous montre quelque chose. En fait, quand Dieu nous parle, il ne nous montre pas la suite.
Oui.
Et donc, ce chemin d'obéissance, sans voir et sans comprendre, ben, il est difficile. Il est difficile pour nous-mêmes, pour notre foi, pour voilà, c'est difficile de finalement de remettre notre vie entre les mains de quelque chose qu'on ne comprend pas, qui n'a pas de sens et qui a pour ma part duré 5 ans, parce qu'à partir du moment de 18 ans à 23 ans, ça a été voilà, c'est 5 ans par lequel j'ai dû me mettre à part pour étudier sa parole, et puis après, entrer dans des études.
Okay.
Et je l'ai fait avec une certaine, voilà.
Entraînant les pieds un peu
complètement. Et je me rappelle, c'était une école supérieure. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on apprend chez vous? Est-ce qu'on peut apprendre l'anglais voilà, de façon un peu professionnelle? Oui. Bon, est-ce qu'on peut apprendre les choses de l'entreprise, etc.? Oui. Bon, ok, inscrivez-moi. Donc, c'était un peu comme ça, voilà.
Voilà, il faut le faire. Est-ce que vous avez essayé de résister au début? Est-ce que vous avez dit oui tout de suite ou il y a eu un moment... est-ce que vous avez essayé de négocier?
J'ai pleuré 3 jours.
3 jours, ok.
J'ai pleuré 3 jours. 3 jours où j'ai l'impression que j'ai déambulé dans la maison de mes parents comme un fantôme, sans maquillage, sans rien, plus de vie, quoi. Seigneur, et pour finalement, bon, abdiquer et dire, bon, ben voilà, je vais le faire. Alors que finalement, Dieu m'avait parlé, mais je n'avais pas entendu une voix tonitruante, mais c'était une certitude à l'intérieur de moi, donc c'était vraiment un pas de foi. Et voilà, donc j'ai pleuré 3 jours, j'ai essuyé mes larmes, j'ai dit, ok, je vais le faire.
Waouh, bonne démarche d'obéissance.
Je n'ai pas compris pendant 5 ans.
C'est long, cinq ans, quand même.
C'est long, oui. Et pendant 5 ans, et à la fin de mes études, mon diplôme, etc., j'ai dit, bon, bah, Seigneur, on fait quoi? What's next?
C'est sûr.
Qu'est-ce qui se passe après, quoi? Et je me suis dit, bon, bah, voilà, maintenant, je vais reprendre ma vie en main. J'ai fait, voilà, je vais retourner dans des études de psy parce que ça n'a pas de sens.
Ok, d'accord. Vous étiez prête à reprendre les études en psychologie.
Mais qu'est-ce que j'allais faire de ce bagage, quoi?
C'est sûr, parce que vous ne vous voyez pas du tout travailler en entreprise.
Je connaissais personne d'anglophone. L'anglais faisait pas partie de ma vie là où j'étais, là où j'habitais, etc. Donc, ce plan n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens jusqu'à ce que ça ait du sens.
C'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé
jusqu'à ce que ça prenne tout son sens. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose, c'est que 6 mois après que j'ai mon diplôme, etc., où finalement je savais pas trop où je campais.
Oui.
J'ai travaillé avec ma mère dans sa maison d'édition parce que voilà, je cherchais un peu ma direction. Mm-hmm. Et puis là, Dieu m'a dit en fait, voilà, c'est ton mari. Dieu m'a montré cet homme de Dieu pour lequel j'avais beaucoup de respect. Mm-hmm. Ça a été un choc. Ça a été un choc. Une surprise,
okay,
auquel je ne m'attendais pas. Dieu m'a dit, c'est ton mari. Et c'était évidemment un homme qui était déjà dans le ministère, mm-hmm, qui était expérimenté dans le ministère, qui s'appelle donc le pasteur Selva Rajragia. Mm-hmm. Et là, d'un seul coup, tout a pris son sens, mm-hmm, parce que j'avais besoin de connaître la parole de Dieu. Et heureusement que j'avais étudié la parole
vraiment
de Dieu. Parce que c'était un homme expérimenté, mm-hmm, dans la parole. Et que ça aurait été vraiment difficile pour moi de ne pas avoir développé une certaine connaissance et maturité, mm-hmm, et puis aussi parce qu'il était anglophone.
Eh oui.
Et qu'on a parlé 18 ans à la maison ensemble, dans notre vie au quotidien, et qu'il était anglophone et qu'il fallait que je parle anglais absolument.
C'était une nécessité.
Oh mon Dieu. Et puis aussi parce que le ministère, finalement, demande, et bien sûr, des compétences et une compréhension de la gestion, de toutes ces choses pratiques, finalement, qui font le ministère, que c'est nécessaire.
Donc là, tout à coup, vos yeux sont ouverts et vous avez compris.
Ouais.
Et plus tard, en fait, il y a eu cet appel aussi à la prédication qui est venu. Et ça, vous ne vous attendiez pas forcément. Parce que
c'est pas vraiment plus tard, mais ça a été dans ces 5 ans.
Dans ces 5 ans, d'accord.
En fait, Dieu m'a parlé à 18 ans et j'ai commencé à suivre les directives. Mm-hmm. Et à 20 ans, Dieu m'a appelé à prêcher à 20 ans. Donc là, ça a été un choc pour moi aussi. Parce que je n'étais pas du tout d'accord avec cela. J'étais la personne qui refusait de répondre aux professeurs à l'école. Il était hors de question. J'étais tout à fait extravertie. Hein. Mm-hmm. J'étais pas une personne introvertie. J'étais tout à fait libre, heureuse, très épanouie, bien dans ma peau, etc. Mais quand il s'agissait de parler en public, c'était niette.
C'est ça. C'était... vous n'aimiez pas du tout.
Non, non. Alors, pas du tout. Donc, aucun professeur n'avait rien pu tirer de moi parce que c'était juste non. Et quand Dieu m'a appelé à prêcher, donc je lui ai dit non, comme j'avais l'habitude de dire au professeur. J'ai été très catégorique, j'ai dit non. Mm-hmm. Mais trois fois j'ai dit non. Et trois fois quand j'ai dit non, j'ai eu une expérience, que je ne pouvais pas finalement renier. C'est que trois fois j'avais de l'électricité qui venait sur mes lèvres. Oh. Alors à l'époque, je savais pas ce que ça voulait dire, je savais pas ce que c'était. Je savais bien que c'était quelque chose d'inhabituel. Mm-hmm. Et quand je disais non, que je ne voulais pas, en fait, j'étais invitée. Vraiment, je ne vois pas qui et comment et pourquoi on a bien pu m'inviter à prêcher dans une conférence à l'âge de 20 ans, sans expérience ni rien.
C'est vrai que c'est surprenant.
Et la personne était insistante. Et trois fois, j'ai dit non. Et à chaque fois que je disais non, j'avais de l'électricité sur mes lèvres. Donc finalement, je me suis dit, bon, je suis en train de désobéir à Dieu, mmh, j'ai des signes, que, voilà. Et donc j'ai finalement dit oui.
Et comment ça s'est passé cette première fois?
J'ai dit oui, ça a été pour moi le sacrifice ultime, où j'ai dû vraiment mettre ma confiance en Dieu, dire mais qu'est-ce que tu me fais, je veux pas ça. Et puis j'y suis allée quand même, en réunissant tout mon courage, etc. Et puis j'ai étonnamment... Et c'est là que ça ne peut être que Dieu. Quand j'ai pris le micro, je n'ai pas vu ce qui s'est passé et j'ai apporté finalement un message qui était, pour le coup, dès le premier, très puissant et qui a duré 1 heure et demie. Et quand j'ai rendu mon micro, je n'avais aucune conscience de ce qui s'était passé.
C'est fou. 1 heure et demie, première prédication.
Ouais,
et vous êtes toute jeune quand même.
20 ans.
Extraordinaire. 20 ans.
Aucune expérience.
C'est fou. Et là, vous avez vu que l'appel était sur votre vie.
Oui, tout à fait.
C'est indéniable, hein.
Oui, et c'était vraiment pas ce que je souhaitais. Mais donc, j'ai dû aussi, là aussi, finalement obéir.
C'est ça, exactement. Finalement, vous avez essayé de négocier, de résister, mais ça n'a rien donné parce que l'appel était là.
Ouais.
Quand Dieu appelle, au bout d'un moment, on doit lâcher prise, en fait.
Oui, tout à fait. Puis bon, on se doit d'obéir à Dieu.
Hein. Exactement.
C'est important.
C'est une nécessité, tout à fait.
Ouais.
Et puis, donc, c'est ça, vous avez rencontré votre mari, vous vous êtes mariés et vous avez commencé un ministère qui n'était pas en plus uniquement en France, mais qui était un ministère clairement international.
Oui.
Vous avez fait énormément de missions à l'étranger, particulièrement en Inde, en Afrique et un peu partout, 4 coins du monde, en fait.
Oui, c'est vrai que, effectivement, j'ai eu l'opportunité de prêcher dans, dans de nombreux pays du monde, et aux États-Unis, en Angleterre, dans des pays anglophones, dans des pays francophones. Bah, en Inde, voilà, il faut parler anglais. Donc, voilà, tout cela a pris un sens.
Vraiment, ouais. L'anglais était nécessaire non seulement pour votre mari, mais pour votre appel aussi.
Ouais.
Et la connaissance de la parole de Dieu aussi.
Ouais.
Et à quel moment vous avez commencé l'église pour justement mettre au profit ces talents de gestionnaire ?
Eh bien, écoutez, mon mari avait déjà commencé l'église. Donc, je me suis greffée à l'œuvre de Dieu et à son ministère. Et puis, voilà, pour prendre ma place petit à petit et puis comprendre que finalement, il avait aussi besoin de soutien et d'aide dans ce domaine-là. Et puis, oui, jusqu'à aujourd'hui, de toute façon, le ministère demande de la gestion. Et,
oui. Ouais. C'était vraiment nécessaire, d'autant plus qu'il y a eu cet événement quand même où votre mari est parti. Donc, vous avez dû gérer ça toute seule.
Ouais.
C'était vraiment important que vous soyez autonome et formée et équipée finalement. Je pense que là, vous l'avez vu encore plus.
Oui, oui, bah, c'est vrai que ça fait toute une différence quand on passe de 2 à 1.
Mais oui, vraiment.
et ça a été mon cas. Mais bon, la grâce de Dieu qui a été là aussi. Je pense que dans l'obéissance à Dieu et dans le chemin de Dieu, la grâce de Dieu est là.
Mmh.
Et j'ai vu sa grâce parce que ce que j'ai pu faire au travers de ce départ, j'ai vu sa grâce vraiment se manifester. Et sans sa grâce, je n'y serais pas arrivée.
Oui.
C'est sûr. Hein. Tout ce que l'on est, on l'est par la grâce
Amen.
De Dieu. Et tout ce que l'on a. Vous savez, je dis souvent cela. Tout ce que j'ai, et tout ce que je fais, c'est par la grâce de Dieu. Et je m'en souviens continuellement.
Vous avez raison.
On sait d'où on part. Vous savez, personnellement, je pense que dans ma vie, dans mon ministère, j'espère, et je le dis humblement, je n'ai pas de fierté et je n'ai pas d'orgueil. Alors, ce n'est pas à moi de le dire. Hein, c'est probablement aux gens qui me connaissent et qui m'entourent. Mais je ne pense pas avoir de fierté, d'orgueil ou d'arrogance. Parce que je sais d'où je viens et je sais ce que Dieu m'a demandé. Et donc, finalement, voilà, on reste très simple. Je me rappelle au début, dans ma vie, dans le ministère, ce n'était pas toujours facile. Il peut y avoir des frustrations, on n'est pas toujours ce que l'on voudrait être, on ne se sent pas toujours à la hauteur. Et ma mère a été de bons conseils. Puis, c'est important de s'entourer de gens qui sont de bons conseils.
Oui.
Et au début, vraiment, de l'appel de Dieu, ma mère m'a donné un conseil que j'ai gardé. Et elle m'a dit, voilà, ma fille, il faut de l'humilité, de la simplicité.
Mmh.
Et si tu marches dans l'humilité et la simplicité, Dieu fera le reste.
Amen.
Et j'ai gardé ce conseil. Et puis particulièrement lorsque l'on est une femme, et je pense qu'il y a beaucoup d'auditrices qui nous regardent, beaucoup de femmes aussi qui sont appelées au ministère et à qui Dieu a demandé des choses. Et j'aimerais leur dire, je pense que la clé de ma vie, de mon appel, de mon ministère, repose sur l'humilité et la simplicité. Et j'aimerais vous dire, mesdames, surtout parfois dans des pays, dans des nations dans lesquelles le ministère de la femme est combattu, votre défense, votre appel ne va pas être la revendication, surtout pas. Ça n'a jamais été le cas dans ma vie. Je n'ai jamais revendiqué rien du tout. Je n'ai jamais cherché à être et cherché à prouver. Et je vous dis vraiment l'importance de ne pas prouver quoi que ce soit, mais simplement d'être dans toute l'humilité et la simplicité. Et puis finalement, c'est l'appel de Dieu qui doit parler, c'est l'onction sur votre vie qui doit faire la différence. Et ça, l'onction, on ne peut pas la fabriquer.
Oui.
On ne peut pas la créer.
C'est sur votre vie et c'est lié à votre appel et on en voit les fruits. Et oui, je peux témoigner d'une grande humilité. Je ne vous connais pas énormément, mais quand vous êtes ici, on s'en rend compte.
C'est vrai.
Et on est vraiment très, très honorés de vous avoir avec nous. Merci d'être venu nous partager une petite bribe de votre vie qui était vraiment encourageante, je pense, pour les personnes à la maison, ceux qui ont peut-être reçu un appel et qui ont tenté de résister, de voir les fruits de l'obéissance. Et merci pour la francophonie d'avoir obéi à cette parole de Dieu,
merci,
parce que vous faites beaucoup de bien à la francophonie.
Gloire à Dieu, tant mieux.
Merci d'être venu, Pasteur Dorothée. Donc, un témoignage parmi tant d'autres, parce qu'on a des hommes, des femmes de Dieu qui viennent nous voir à MCI TV, et puis on voit que chaque histoire est différente, mais chaque personne, à un moment ou un autre, de dire oui à l'appel, dire oui à Dieu, et puis on l'a tous fait. Être ici sur ce plateau, ben, on a dû dire oui à Dieu. Mm-hmm. Nadine, tu t'es levée ce matin très tôt, et tu as dit oui à Dieu. Amen. Pour être ici sur ce plateau, et à chaque fois, en fait, on l'a fait, et puis on voit que c'est le début pour entrer dans le ministère, c'est le début, c'est de dire oui à Dieu. Et vraiment, à la maison, je veux vraiment vous encourager à oser dire oui à Dieu. Repentez-vous si vous avez résisté, repentez-vous même si vous lui avez dit non, et croyez que Dieu est bon, il est fidèle et qu'il ne se repent pas de son appel. Donc, s'il vous a appelé, vous êtes encore appelé aujourd'hui, même si vous n'en voyez pas encore les fruits. Soyez encouragés, fortifiés. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci à vous tous pour cette émission. On se retrouve lundi et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.